ensemble, croisement de toutes les cultures. Marseille-Provence 2013, en partenariat avec Radio France. FIP reçoit Peter Van Poel et Terra Kaft. Jeudi 4 avril à 20h30 au Studio 105. Un concert exceptionnel à écouter sur FIP et FIPradio.fr. FIP, une radio du groupe Radio France.
France Inter.
La voix est libre.
Daniel Mermet et ses amis sont tous là pour là-bas si j'y suis. C'est parti.
Oui, ben moi, l'origine du monde, de Courbet, j'en ai rien à faire. Je suis Kim Jong-un et j'annonce la fin du monde. La preuve, dans 5 minutes, je fais tout sauter. Patrick de Chamadel.
Salut. L'origine du monde, Gustave Courbet. Anagramme, ce vagin goûte l'ombre d'un désir. Je répète. Ce vagin goûte l'ombre d'un désir. Étonnant, non?
Ah, il est 15h03. C'est l'heure de mon émission préférée. Ah, mais je suis en retard. Je suis resté à l'heure d'hiver. Ah, si j'avais écouté les bons conseils de France Inter, j'aurais changé de montre. Et je n'aurais pas raté là-bas si j'y suis.
Je viendrai écouter l'émission sur l'origine du monde avec beaucoup de plaisir. Et je repense à ce que répondait Léoto à quelqu'un qui disait d'un autre « il est con ». Pourquoi le qualifiez-vous ainsi? Il n'en a ni l'agrément, ni la profondeur. Bon, mais ce ne sera pas le thème du prochain repère de Limoges, mais un retour sur Julian Assange et les risques de voir l'utopie Internet devenir une dystopie. AMG du Limousin, les émissions d'Abbas si j'y suis vous ont sûrement pas laissé indifférent. Venez donc en débattre au repère de Limoges le mercredi 3 avril à 18h30 au bar Les Folies.
Cher Daniel, j'ai été photographe pendant 33 ans. Je sais ce que le réalisme et l'hyperréalisme. L'origine du monde est un chef-d'œuvre. Ma mère, c'est ma mère. Ma sœur, ma copine, d'adolescent, ou mes copines d'adolescent, mon épouse, ma compagne d'aujourd'hui, elle n'a pas de tête, tant mieux, on imagine ce que l'on veut et c'est mieux. Tu vois, Daniel, ce que les puritains ont peur de voir. Merci.
Bonjour à tous, c'est un message urgent qui concerne les compagnons et le maire de Marina Aleda qui sont en danger. Vous savez, ce petit village andalou de résistants. Là-bas, c'est J'y suis, leur a consacré une émission pour nourrir les nouveaux pauvres. Les gueux, Jean et ses compagnons ont emprunté quelques nourritures dans les grandes surfaces et ces Robins des Bois alimentaires passent en procès le jeudi 4 avril à Granada. À la demande des villageois et de Juan, ils souhaiteraient recevoir de tous et de toutes, individuellement ou par organisation, un mail de soutien. Leur lutte est aussi la nôtre. Pour peser lors du procès, notre soutien est nécessaire. Merci d'envoyer votre mail de soutien avant le mercredi soir 3 avril à marinaleda@dipusevilla.es ou aller sur le site de marinaleda.com. Je vous remercie. Francis, au revoir.
Vous avez compris. marinaleda.com. Là, vous saurez tout sur les dernières péripéties de ce petit village. Effectivement, qu'on vous a fait découvrir en partie, on n'est pas les premiers, mais qui est quand même un endroit assez extraordinaire, une aventure sociale et politique tout à fait extraordinaire en Andalousie. Aujourd'hui, on va au bout du rouleau. Là, c'est vraiment le bout du rouleau. Le bout du rouleau de toile cirée. Ouais, un bout de rouleau de toile cirée. La toile cirée... C'est, on va là où la toile cirée était inventée. Figurez-vous que c'est une invention française, la toile cirée. De la cire sur de la toile égale de la toile cirée. Une invention de la fin du 19e siècle, 1874, je crois. Et l'entreprise existe toujours à Vénissieux, à côté de Lyon. Sauf que là, l'entreprise connaît des turbulences et des aventures plus terribles les unes que les autres. Plans sociaux, reprises, repreneurs crapuleux, promesses gouvernementales, promesses soutien des élus. Et aujourd'hui, les quelques salariés qui restent, qui se battent encore, ils ont eu des indemnités d'une histoire précédente, d'une reprise précédente, c'est assez compliqué, mais c'est terrible. Ces indemnités arrivent à leur terme et ils se battent dans l'espoir que le repreneur qui a signé, co-signé et re-signé des promesses de faire repartir l'entreprise, eh bien, respecte ses engagements. Ce qui n'est pas gagné, en dépit des soutiens gouvernementaux, en principe, des autorités locales, la préfecture, municipalité, syndicats. Donc voilà, c'est avec ces salariés de cette entreprise à côté de Lyon que nous allons passer 7 heures au bout du rouleau. On aurait pu aller dans des tas d'autres endroits en France, tellement ce scénario se reproduit un peu partout. C'est devenu presque banal, c'est la banalité. Avec cette idée quand même en tête, c'est que ce désespoir social, c'est vraiment le fumier sur lequel pousse et se développe l'extrême droite en France, comme elle le fit jadis dans d'autres pays. Ça devrait nous préoccuper, ça devrait peut-être nous préoccuper. En tous les cas, ça va nous intéresser, j'en suis sûr, et vous intéresser, je le souhaite, d'ici à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Hola Daniel, hola les AMG. Rejoignez-nous nombreux et nombreux pour le film Les Moissons du Futur, le dernier volet de la trilogie de Marie-Monique Robin, qui sera présente à Metz pour présenter son film ce mercredi 3 avril au cinéma Le Caméo Ariel. Ça sera à 20h15 à l'initiative de l'association La Vie Nouvelle et en partenariat avec le lycée agricole de Courcelles-Chaussy, le forum IRTS et le FRAC de Lorraine, les Amis du Monde Diplo et Attaque. Et juste avant la projection, on débattra lors du Café Repère comment nourrir la planète sans produits chimiques, sans pesticides et autres poisons. Le Café Repère commencera à 18h au Café Associatif La Chaoué, 1 rue du Champé à Metz. On vous attend, à bientôt, salut, c'était Julie de Metz.
Oui, bonjour répondeur, c'est pour annoncer le Café Repère de Narbonne dans l'Aude, qui aura lieu ce mercredi 3 avril, même lieu, même heure, c'est-à-dire chez Sandrine et Guy, au Café de la Poste, en face de la Poste, comme il se doit. Et cette fois-ci, ben, nous essaierons de réfléchir aux nouveaux modes de résistance, en nous demandant si résister c'est créer, ou peut-être bien si créer c'est résister. Voilà, donc à vous de voir, et on vous attend, à mercredi.
C'est pas la peine d'aller là-bas. Facebook et son puritanisme, on le connaît. Il y a des sites français qui acceptent des publications considérées comme no choquantes parce que c'est de l'art. Allez voir sur les sites tels que thechangebook.org. Vous y trouverez certainement plus limite, plus border pour les ricains qui n'ont pas d'exemple à nous donner. Salut.
Demain, mercredi 3 avril, le repère de Tréguier dans les Côtes d'Armor vous attend à partir de 19h et comme d'habitude, à l'Aigle Noir. Nous vous proposons de revenir sur le naufrage du Bugalette Braise. Le plumeur roi Jacques Lauzet a réalisé un documentaire sur ce drame mystérieux que nous projetterons demain en présence du réalisateur. Donc à demain, 19h, à l'Aigle Noir, à Tréguier, dans les Côtes d'Armor. Kenavo.
Tout ça, c'est l'usine, c'est les fabrications.
Oui.
C'est immense.
Oui, c'est immense, ouais.
Et là, depuis 1874, c'est la première fois que l'usine s'arrête.
Oui, pendant la guerre.
Oui, pendant la guerre, elle s'est arrêtée. Ils ont, eux aussi, lutté pour sauvegarder l'usine.
Oh, on marche sur du verre.
Ça fait bizarre, en fait, parce que c'est des ateliers qui font du bruit. Et c'est vrai que cette usine, elle a plus de bruit.
Le préfet est avec nous, les pouvoirs publics sont avec nous, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et qu'on est vraiment tombé sur des voyous.
On est là, on n'a pas lâché, toujours pas.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Charlotte Perry. Là-bas, si j'y suis, au bout du rouleau, mais ils tiennent bon.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a des matins comme ça où on se demande ce qu'on fait là. Et pourquoi on s'est lancé dans une telle entreprise. Et aujourd'hui, c'est un peu un jour comme ça. Je me demande pourquoi il a fallu venir ici, à Vénissieux, dans la banlieue ouvrière du sud de Lyon, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé chez Véninov. Peut-être parce que Véninov, à Vénissieux, c'est tout un symbole. La plus vieille entreprise de la ville. Là où était inventée la toile cirée. Là où plusieurs générations de Vénitiens se sont succédés depuis la création de l'usine en 1874 par Eugène Maréchal. D'ailleurs, là, on se trouve avenue Eugène Maréchal. La rue où se trouve l'usine a pris le nom de son fondateur. On se trouve le long de la voie ferrée. Au fond, on voit des cheminées d'usine, quatre cheminées d'usine qui fument et des bâtiments industriels. Un dépôt de la SNCF. Le café des cheminots, qui a l'air d'être définitivement fermé. Et puis au fond, un immense bâtiment, qui sont les anciens établissements Maréchal, aujourd'hui Véninov. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Véninov soit aujourd'hui très sérieusement menacé? Parce qu'avant sa mise en liquidation judiciaire, en juillet 2011, Véninov était le leader européen de la toile cirée. Et son carnet de commandes était plein. Mais voilà, ces 10 dernières années, l'entreprise est passée dans les mains de 2 sociétés allemandes, un fonds de pension américain, et depuis le mois de mai dernier, une société autrichienne, qui devait relancer la production avec 40 à 50 salariés sur les 90 que comptait l'usine. Mais voilà, les mois ont passé et rien ne s'est passé. Alors aujourd'hui, un rassemblement est organisé à l'usine pour faire un point sur la situation et soutenir les Véninov en lutte depuis plus de 2 ans pour sauver leur emploi, leur savoir-faire. Et la plus vieille entreprise de la ville.
C'est plus qu'un gâchis, c'est un vol. Ainsi parlait un leader de gauche à des salariés qui occupaient leur usine Véninov entre les griffes d'un repreneur douteux. C'était en septembre 2011. C'est plus qu'un gâchis, c'est un vol. C'était lors des primaires socialistes. Et celui qui a prononcé cette phrase s'appelle Manuel Valls. Il était révolté, indigné, monsieur Emmanuel Valls, en entendant ce que lui racontaient les salariés de Véninov. Ce monsieur Emmanuel Valls, vous le savez, est aujourd'hui ministre d'un pays dont le président, lors de la campagne présidentielle en janvier 2012, au Bourget, confiait à son auditoire, je cite, « Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne se présentera jamais aux élections, c'est le monde de la finance. Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. » Fin de citation. Applaudissements nourris, unanime constatation. Effectivement, ce que nous disions il y a bien longtemps dans cette émission modeste et géniale, il y a plus de 20 ans, et bien tout le monde le constate, y compris le candidat à l'élection présidentielle. C'est peut-être bien là une des raisons pour lesquelles il a été élu ce constat de la finance qui a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. Un troisième élément pour commencer cette émission, une image en 2012, le ministre du redressement productif qui pose en marinière pour défendre les produits made in France. Voilà le patriotisme industriel. Voilà trois éléments. L'indignation, la colère, le constat très juste que l'économie a pris le pouvoir, que nous vivons sous l'empire, la tyrannie, la dictature des marchés, et aussi cette idée que ce serait peut-être pas plus mal de relocaliser, de produire français. Eh bien, ces trois observations, ces trois éléments simples, clairs, ils sont là, devant nous, dans cette usine Véninov, à côté de Lyon, à Vénissieux, cette entreprise de toile cirée, toile cirée, devenue Vénilia, vous vous souvenez, Vénilia, Vénilia Adhésif, etc. Vous connaissez bien ces marques-là. On aurait pu, je le disais en commençant, aller ailleurs, pas très loin de là, dans la chimie, à Arkema ou Petroplus, enfin dans beaucoup d'entreprises françaises en proie au même scénario, qui ont écouté quand même ces promesses, ces affirmations, peut-être avec du doute, mais enfin qui à chaque fois se disent « ben cette fois-ci, ça va y aller, ça va marcher ». Aujourd'hui, les salariés, les quelques salariés qui restent encore, se battent au bout du rouleau, mais ils tiennent bon. Dos au mur, ils espèrent que le repreneur qui s'est engagé, qui a signé, qui a co-signé, face non seulement aux salariés et à leurs syndicats, mais également face au pouvoir public, face au préfet lui-même qui soutient les salariés, on espère que cette entreprise et cet entrepreneur va assurer les promesses qu'il a faites, tenir les promesses qu'il a faites. C'est pas certain. Donc on se pose la question, est-ce que le pouvoir politique a le pouvoir sur un repreneur dans ce pays, un repreneur qui encore une fois a signé et co-signé? C'est la question qu'on peut se poser, c'est la question que se posent les salariés et c'est leur combat. C'est plus qu'un gâchis, c'est un vol. Au bout du rouleau, ils tiennent bon.
C'est pas tellement que c'était Noël. Ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. C'est pas tellement qu'elles étaient belles. Nos machines, mais elles n'y sont plus. C'est pas tellement que c'était Noël. C'est pas tellement qu'elles étaient belles. Dans les artilleries au fond des mines, y'a de la poésie dans les usines. Dans les ateliers, dans les cantines, y'a de la poésie dans les usines. Dans les outils, dans les machines, y'a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement pour le salaire. On peut pas dire que c'était Byzance. C'est pas ça qui nous rend amers. C'est plutôt qu'on avait confiance. C'est pas tellement pour le salaire. C'est pas ça qui nous rend amers. Dans les arcilles au fond des mines, y'a de la poésie dans les usines. Dans le cambouis, dans la cave, la mine, y'a de la poésie dans les usines. Dans les outils, dans les machines, y'a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti comme un voleur. Sans un regard et sans un mot. Mais on n'attendait pas des fleurs. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti sans un mot. Dans les artilleries au fond des mines, y'a de la poésie dans les usines. Dans les ateliers, dans les cantines, y'a de la poésie dans les usines.
Bonjour.
Alors on marche sur la rue Eugène Maréchal. Et là, ça y est, on arrive à l'usine Véninov. Un grand bâtiment vert, Véninov Plastic Foils. Et sur le mur de l'entrée, peint en rouge, renverser le patronat, pouvoir aux travailleurs, Véninov vaincra, avec la faucille et le marteau. Et sur le mur d'à côté, en noir, Véninov vivra. Là, on passe les grilles, des autocollants CGT collés à l'entrée des grilles. Petite guérite, personne étrangère à l'usine, veuillez vous présenter ici. Tout est vide. Il reste une vieille cabine téléphonique dans un coin, elle aussi, avec un autocollant de la CGT. Et puis des portillons pour rentrer dans l'usine. Bonjour. Je savais pas par où entrer, j'ai essayé de pousser les portillons. Bonjour.
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 Bonjour. Charlotte.
Enchanté.
Enchanté. Allez.
Ouh là là, elle est froide, hein. Oh là là, elle m'a glacé le bout du nez.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va, et vous?
Ouais, ça va, ouais.
Bonjour.
Bonjour. Vous vous appelez comment?
Céline.
Et vous avez travaillé ici combien de temps chez Vénina?
18 ans.
Heureusement que je n'ai pas joué.
Bon, on va aller se mettre à côté.
Et juste, c'est qui là, ce monsieur?
Le fondateur de l'usine.
Eugène Maréchal.
Il y a encore son portrait dans le bureau.
Oui, il n'était pas ici, mais on l'a fait venir ici pour faire voir qu'il est toujours là. C'est lui qui a créé l'usine, donc il l'a créée, nous on essaye de la sauver, donc c'est normal qu'il soit là, qu'il nous regarde, tout simplement.
Là, il y a des matelas installés par terre.
Ouais, on est resté, on a fait des 3-8 ici, donc on a surveillé l'usine tout le mois de décembre en 3-8.
Pourquoi?
Pour surveiller nos cylindres et éviter que le repreneur vienne les chercher sans autorisation.
C'est ce que vous craignez, qu'ils vous volent vos cylindres?
Exactement, pour les emmener aux Pays-Bas, puisqu'ils voulaient travailler avec une usine des Pays-Bas et nous prendre nos cylindres.
Et ça sert à quoi, ces cylindres?
C'est des cylindres qui servent en fait à faire les dessins d'étoiles cirées, les motifs.
Parce qu'ici, il faut rappeler que vous fabriquez des toiles cirées. Et c'est même ici qu'a été inventée la toile cirée, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait, oui. Par Eugène Maréchal en 1874, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, le nom Vénilia vient de Vénitieux. Et Véninov aussi, bien sûr. Donc nous, on est très attachés à ces cylindres et il est hors de question qu'ils partent de France. Si il veut imprimer de la nappe, on est tout à fait apte à le faire et on est tout à fait disposé, avec un contrat de travail, à faire des nappes, qui était notre métier. Alors on était 87 avant.
Et à l'heure actuelle, personne n'a signé de contrat de travail?
Non. Donc il n'a rien fait depuis le mois de mai. Rien.
Et ici, là, c'est cette pièce?
En fait, c'était l'expédition, la logistique. Donc, on est à côté des quais de chargement des camions qui venaient charger la toile cirée.
On voit le portail, ouais.
C'est un endroit stratégique pour notre lutte, parce que voilà, ouais, on arrive à voir l'extérieur. Donc, ça a été réorganisé en QG, on va dire, et en dortoir, voilà.
Vous avez passé des nuits ici?
Ouais, on a passé des nuits, ouais. Devant l'insistance de Windager de récupérer ces fameux cylindres d'impression, qui est ce qu'on appelle notre trésor de guerre, on a décidé d'intensifier en fait la surveillance et de rester 24 heures sur 24, de peur qu'ils viennent à tout moment essayer de les récupérer. Quoi.
Vous vous appelez comment?
Je m'appelle Manu, j'étais imprimeur. Ouais, c'est ça qui fait rager en fait, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, ben, on est une quinzaine en fait, hein. On n'est pas bien plus nombreux que ça.
Une quinzaine de salariés.
Une quinzaine d'anciens salariés, exactement. C'est d'être dans une entreprise qui fait partie du patrimoine français. C'est une usine qui a 140 ans, on parle de Vénilia, il y a eu des pubs télé, tout le monde connaît le Vénilia, l'adhésif décoratif qu'on pose sur nos armoires. Et ça nous a fait rager de se dire que cette entreprise, elle ferme. On s'est fait avoir par un fonds de pension américain, qu'on a réussi à déboulonner, on fait reprendre l'entreprise et on retombe encore sur des crapules, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, bah ouais, nous, de notre lorgnette d'ouvriers ou de travailleurs, quoi, qui se sont battus, quoi, quand même, pour faire reprendre cette usine, ouais, ça fout les boules.
Donc aujourd'hui, là, il y a un rassemblement à l'usine.
Ça peut être l'occasion d'interpeller le gouvernement, et notamment Arnaud Montebourg, pour que des sociétés qui viennent investir en France ne fassent pas ce qu'elles veulent.
Alors, vous voulez quoi aujourd'hui ?
Qu'il rende tout ce qu'il a obtenu il y a un an, les marques, le terrain, les machines, qu'il rende tout, afin de pouvoir y donner à un autre preneur qui, lui, relancera une activité et embauchera du monde. Voilà.
Et les cylindres, là, ils sont où ?
Ils sont bien cachés dans l'usine. Bien cachés, bien camouflés. Mais ils sont là. Ils sont là, ils bougeront pas.
Arnaud Montebourg en visite dans la région. Aujourd'hui, le ministre du Redressement Productif avait sorti son costume de VRP, but de la manœuvre promouvoir et valoriser la filière chimie et matériaux. Made in France, bien entendu.
Télé Lyon Métropole, 4 février 2013.
Profitant de cette visite d'Arnaud Montebourg, Michel Picard, maire de Vénissieux, ainsi que l'ancien député André Gerin l'ont interpellé ce matin au sujet de l'entreprise de toile cirée Véninov, dont le redémarrage semble compromis.
De faire en sorte que, un, on préserve cet outil industriel Made in France et qu'on récupère la marque et qu'on travaille sur un nouveau repreneur dans la mesure où il va y avoir une procédure judiciaire vis-à-vis du faux repreneur que nous avons actuellement.
Nous suivons ce dossier depuis un moment. Nous exprimerons le moment venu lorsque nous aurons des choses à communiquer. Mais parfois, vous savez, il est nécessaire de faire preuve de discrétion lorsqu'on a besoin de défendre des outils industriels.
Alors, faire preuve de discrétion, effectivement, le gouvernement fait preuve de discrétion, discrétion absolue, et même très, ça confine au silence le plus absolu. Et vous avez compris l'histoire, le repreneur auquel des concessions importantes ont été faites, très importantes, puisqu'il est par contrat propriétaire de l'entreprise, en contrepartie de l'embauche d'une partie des 87 salariés, c'est-à-dire 40-50, et puis après ça devient, ah oui, non mais pas plus de 20, et là, ces jours derniers, c'était, pas plus de 10, et on peut vraiment penser qu'il s'agit d'un faux repreneur qui est intéressé par ce trésor de guerre, ces fameux rouleaux d'impression qui servent à l'impression des tissus, en l'occurrence des toiles cirées, et évidemment, il semblerait bien que ce soit ça qui l'intéresse, de façon à transporter ensuite ces rouleaux dans des usines ailleurs, en Europe, probablement en Hollande, en dépouillant cette fois-ci définitivement les salariés de leur gagne-pain, de leur entreprise, une entreprise française, avec toute cette aura que M. Montebourg voit dans le fait de fabriquer en France et de relocaliser nos industries. Voilà, nous sommes avec les salariés qui résistent.
Alors là, on ressort. Tout ça, c'est l'usine, c'est les fabrications.
Oui.
L'usine éveille, elle a 140 ans, donc c'est pour ça qu'on a un peu cet aspect qui peut rappeler... pas, moi je compare ça des fois à un camp de concentration.
Mais les machines par contre sont en état, marchent très bien.
Alors là on rentre.
Elles sont pas modernes, mais...
Et là depuis 1874, c'est la première fois que l'usine s'arrête.
Oui, pendant la guerre.
Oui, pendant la guerre, elle s'est arrêtée. Et justement, un des anciens salariés retraités aujourd'hui, qui nous suit énormément parce qu'il est très, très attaché à cette usine, nous racontait que pendant la guerre, en fait, ils ont caché ces fameux cylindres d'impression et ils ont eux aussi lutté pour sauvegarder l'usine.
Ils ont eux aussi caché les cylindres ? Oui, on marche sur du verre.
Toutes les vitres des bureaux ont été cassées. On pense que c'est plutôt des jeunes qui sont venus s'amuser.
vous.
C'est immense.
Oui, c'est immense, oui.
Il y a même l'horloge qui s'est arrêtée à 9h moins le quart.
Ouais.
Ouais, ouais, on n'a pas changé la pile. Ça fait bizarre, en fait, parce que c'est des ateliers qui font du bruit. Pas énormément, mais il y a toujours du bruit. Et c'est vrai que cette usine, elle a plus de bruit. C'est triste. Ça fait vraiment triste.
Je vous laisse regarder. Vous voyez, donc là, il y a, là sur le cylindre, il y a une gravure, en fait.
Ah oui, oui, on voit les carreaux.
Il y a une gravure, et en fait, le cylindre est alimenté en encre, ici. Derrière, l'encre est raclée. Et en fait, il reste juste une fine couche d'encre, en fait, sur le motif que vous apercevez, là. Et ensuite, l'encre se dépose sur la feuille. Et donc, on peut mettre jusqu'à 6 cylindres dans la machine. On peut faire 6 motifs sur une même nappe, ouais.
Mais ça, c'est pas les cylindres que vous avez cachés ?
Si. Enfin, ceux-là sont dans la machine, mais on en a 3500 comme ça, qui sont cachés juste là derrière. Pour 2-3 cylindres, ils vont pas s'embêter, quoi.
Le papier peint vinyle Vénilia est vraiment très, très résistant. Il ne craint ni les chocs, ni les mauvais traitements.
Eh oui.
Prêt à en coller, le papier peint vinyle Vénilia est facile à poser. Il se défroisse facilement. Intachable, il est vraiment lessivable. Et il n'a peur de rien. Papier peint vinyle Vénilia, solide à la pose, solide à l'usage.
Ah, ça y est, tout le monde est arrivé.
Ouais, tout le monde est arrivé. Je ne sais pas si les discours ont eu lieu encore, mais voilà, donc il y a quand même beaucoup de monde. Et on est très soutenus et ça nous fait très plaisir de les voir.
Donc là, le rassemblement a lieu dans l'usine ?
Oui, ouais, dans le hall d'entrée. Ah bah les discours commencent.
Qui est-ce qui parle ?
Actuellement, maintenant, c'est François Marquez qui s'occupe de la CGT au niveau de l'union locale.
D'accord. Je vais m'approcher, on va tout à l'heure.
À tout à l'heure. Si.
Certes, on a mis à terre un fonds de pension, les pouvoirs publics nous y ont aidés. Certes, Windager a fait des propositions de reprise industrielle avec 40 à 50 emplois industriels à la rentrée, c'est-à-dire au mois d'octobre. Ces engagements n'ont pas été tenus. Donc nous demandons toujours au ministère du redressement productif de redresser Véninov et de mettre Windager dehors. Il y a 68 000 m² de terrain ici pour relancer une production industrielle. Et si Windager n'est plus là, le possible redevient présent. Et moi, j'insiste là-dessus. Parce que Windager, il veut les 400 cylindres pour essayer d'aller lancer une production en Hollande. Hein ? Les salariés, ils ont dit niette. Il ne prendra pas les cylindres.
Ah, oui, monsieur. Un des meilleurs scores du département pour France Hollande. Ce qui est pas vrai dans toutes les villes de Roche.
Vous appelez comment ?
Alors, Clavel Georges, retraité Véninov. J'ai été embauché en 1958. Donc, j'ai travaillé 38 ans dans cette entreprise. Quand je suis rentré dans l'entreprise, nous étions 1250. Voyez, actuellement, si on me donnait seulement une seule raison qui vaille que cette entreprise doit fermer, disons que ça serait pour moi quelque chose de beaucoup plus acceptable. Mais là, il n'y a aucune raison depuis le départ pour que cette entreprise ferme. Il y avait du travail, il y avait quelque chose de renommé. Il faut impérativement que le gouvernement prenne conscience qu'ici, il y a quelque chose qu'il faut faire repartir. Non seulement ça fait partie d'un patrimoine industriel, mais pour les gens de Vénissieux, pour les familles vénitiennes, pour les vieilles familles vénitiennes comme la mienne, moi j'ai ma grand-mère qui a travaillé ici, on ne peut pas laisser partir une marque comme Vénilia, c'est Vénissieux. On ne peut pas laisser partir ça dans les mains étrangères, c'est pas possible. On doit le conserver ici en France. Vous savez, quand je suis rentré ici en 58, il y a des gens qui étaient là en place, qui avaient été dans la résistance, qui avaient combattu l'ennemi, qui avaient combattu les nazis. Ce sont des gens qui ont fait des exploits. Ici, il y a des souterrains, par exemple. Et bien, l'occasion était de cacher certaines choses qui ne devaient pas être allées dans les mains des ennemis. Voilà, ces fameux cylindres. Ces fameux cylindres. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut pas les laisser partir. C'est pas possible. Les gens qui m'ont raconté ça maintenant sont décédés. Mais par respect pour ça, c'est pas possible. Ce qu'ils ont fait à l'époque face à un ennemi qui était quand même terrible. Nous, on a aujourd'hui des gens qui sont là et qui veulent démolir, mais c'est pas les mêmes dangers. Donc on peut pas se permettre de laisser partir ce qu'eux ont défendu sous les armes, sous tous les dangers qu'il y avait à l'époque. Hein. Il faut qu'on récupère nos biens. Et qu'ensuite, eh bien, on trouve un repreneur capable de faire redémarrer l'industrie. Enfin, on ne peut plus faire confiance à un escroc, c'est pas possible.
La Chine excelle dans le textile, la Thaïlande dans les grains de riz, les Anglais ont un humour exquis. Nicaragua produit la cocaïne et la revend au meilleur prix. La France des photocopies. La France des photocopies. Les savants disent que dans quelques siècles, sur terre, plus de forêt. Je vis déjà dans vos pensées inquiètes. Sans arbres, plus de papier. Mais la France, prévoyant la disette, rassurez-vous, ne perdra pas de prix. Photocopiant sur un air de fête tous les arbres du pays. La chaîne cerisier et être pour faire face à la pénurie. La France des photocopies. La France des photocopies.
Jeter un œil sur la situation des Véninov, c'est se rendre compte qu'ils sont au bout du rouleau. Ils ne quittent pas des yeux leurs cylindres sur lesquels est gravé leur savoir-faire.
France 3, 1er janvier 2013.
Leur trésor de guerre, 3500 cylindres, c'est tout ce qu'il leur reste. Mais leur repreneur, le groupe autrichien Windegger, souhaite en acheminer 400 sur un site de production situé en Hollande.
Il y a cette volonté de s'accaparer des cylindres, hein, 400 sur plusieurs milliers.
Guy Fischer, sénateur du Rhône.
Et puis, véritablement, de transférer ce trésor de guerre en Hollande. Ce n'est ni plus ni moins du pillage industriel.
Pire encore, la société Windegger, dans un courrier adressé au député André Jorin, annonce ni plus ni moins qu'elle fait marche arrière. Elle ne redémarrera pas la production à Vénissieux et revient sur ses promesses d'emploi. Un gros mensonge qu'ont du mal à avaler les Véninov. Ils espèrent un nouveau repreneur. Le temps presse, leurs indemnités chômage toucheront à leur fin au mois d'août prochain.
Bonjour.
Bonjour.
Michel Picard, maire d'Vénissieux. Vénissieux, c'est l'Est lyonnais. C'est la troisième ville du département. C'est plus de 60 000 habitants. C'est 2330 entreprises et plus de 29 000 emplois. Véninov, c'est une des entreprises les plus anciennes, 1874, maintenant qui est menacée. Enfin, moi, ça me met en colère. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des Autrichiens ou des Allemands ou je ne sais qui peuvent se rendre propriétaires d'un site avec une reprise, s'asseoir sur le droit français, flouer les collectivités, mépriser les salariés. Et je ne comprends pas comment, au niveau gouvernemental, comment au niveau de la justice, on ne peut pas obliger ce repreneur à tenir ses engagements. C'est simplement ça, tenir ses engagements. Sachant quand même qu'il y a à peu près un an, on a demandé aux collectivités de mettre la main à la poche. 70 000 euros pour le Grand Lyon, le conseil régional, 70 000 également. Et nous, on a valorisé le site. C'est-à-dire qu'en fait, pour aider à une reprise, on a nettoyé le site.
Vous avez mis combien de...
C'est l'équivalent, en tout cas, la valorisation, c'est à peu près 30-35 000 euros. Donc, à un moment donné, il y a une grosse colère. Et je pense que le gouvernement, eh ben, il doit porter cette question. Ça fait 30 ans que notre pays... l'industrie, elle part, quoi. L'industrie, elle est fauchée, on joue à un jeu de Monopoly, etc. Et à un moment donné, on va vivre de quoi? Les gens vont vivre de quoi? C'est pas du tourisme. Donc à un moment donné, il faut prendre un véritable pan hors sec pour maintenir notre industrie en France et pour développer l'industrie en France. Et si la gauche réussit pas, ça sera bingo pour le Front National en 2017. Voilà ce que je dis.
Voilà, tout est dit, simplement, clairement. Contribution quand même des collectivités locales à hauteur de 175 000 euros pour clore cet accord avec ce repreneur qui ressemble effectivement de plus en plus à un escroc, mais qui a bel et bien signé. Et le mystère, l'interrogation... Comment et pourquoi le pouvoir actuel est incapable, se montre incapable d'appliquer la loi, tout simplement, ce qui relève de la loi. C'est la libre entreprise. Les entreprises font ce qu'elles veulent, les spéculateurs font ce qu'ils veulent, puisque c'est eux qui traînent la plupart du temps. Pilote ces entreprises, domine ces entreprises. Pour certains, lorsque un emploi est détruit, c'est quelques points qui montent à la bourse. C'est quand même comme ça que ça se passe. Jusqu'où on ne sait pas. Quand est-ce que ça s'arrêtera? On est au bout du rouleau, mais ils tiennent bon.
Grand Rue Avocat s'efforce d'écourter agréablement votre attente et vous prie de bien vouloir patienter quelques instants. Merci. Grand Rue Avocat is trying to limit your waiting time.
Allô, Pierre-Yves Rossignol, je suis avocat à la Cour, spécialisé dans le domaine des procédures collectives.
Et vous défendez donc dans ce dossier le groupe ?
Le groupe Windegger, un groupe autrichien Windegger, qui commercialise des engrais, un petit peu une sorte de truffaut autrichien. Effectivement, le projet a pris un certain retard. Alors, il faut voir que... Voilà, il y a eu beaucoup d'énervement dans le dossier. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de discussions avec les représentants des organisations syndicales qui sont pas forcément très bien passées. Hein, mais enfin bon, on est en France, donc c'est toujours des sujets un petit peu délicats. Mais voilà, tout ce qui explique que ça a pris du retard, mais que le groupe a bien commencé à mettre en œuvre une reprise du site, puisqu'il souhaite utiliser le site pour en faire un centre de logistique, hein, pour pouvoir exporter ces nappes plastiques un petit peu partout dans toute l'Europe. Donc plutôt des choses dont on devrait se réjouir.
Le redémarrage de l'usine est prévu pour quand ?
Alors, je suis incapable de vous le dire. Non, moi je pense qu'on y verra réellement plus clair à la rentrée des vacances d'été. Hein ?
Bah moi, je suis avec le délégué syndical CGT chez Uninov.
Vous vous appelez comment ?
Stéphane Navarro. Moi, je vais commencer à chercher un emploi, ce que je n'avais pas fait depuis la lutte. Bah, moi, je n'ai jamais cherché, hein, puisque moi, je voulais retrouver mon emploi, donc voilà. Mais maintenant, oui, je vais m'y mettre sérieusement. Bientôt, on ne touchera plus rien, hein, ni de chômage, ni d'allocation, rien du tout. Donc, ouais, faut qu'on se bouge. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, au mois d'août pour certains, au mois de septembre pour d'autres.
Alors ça voudrait dire quoi? Que la lutte, elle va s'arrêter comme ça ou qu'elle va quand même continuer
Ça veut dire que la lutte va continuer, mais de manière différente. De manière différente. Alors ce qu'il nous faudrait pour nous, c'est ce qu'on demande, c'est que l'État prenne les choses en main, que l'État vienne surveiller le site, garder l'outil de travail intact, et pourquoi pas retrouver un repreneur, et puis pour à la finalité, redémarrer l'outil de production, nous rappeler, et puis voilà. Maintenant, nous, en tant que salariés, on ne pourra pas rester. Donc voilà, on va se battre, mais d'une autre manière. Donc, c'est des voyous, c'est tout simplement des voyous. On s'est battu pour redémarrer la production, on ne s'est pas battu pour faire du magasinage ou voilà, de la logistique. C'est lui qui le dit, c'est lui qui veut récupérer 400 cylindres pour les envoyer en Hollande, pour faire ici une base logistique, pour faire juste de la finition, donc de l'emballage de produits qui va être fait ailleurs.
bientôt. À bientôt. Ciao, Michel. Salut.
Toute l'usine s'est vidée.
Ouais.
Le pot s'est terminé. Il reste juste où les panneaux, on n'a pas lâché, Véninov a gagné, ça date de juin, vous les avez pas enlevés.
Ça date de l'espoir qu'on a eu de Windegger, et puis ce mec-là, il n'est pas correct. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. De faire espérer des gens, parce qu'il y a des familles derrière, faut pas croire qu'on est tout seul, mais on est tous mariés, on a des enfants comme tout le monde. Donc ce qu'il nous a fait, lui, si un jour ça lui est arrivé, j'aimerais bien voir sa réaction. Parce que donner de l'espoir aux gens qui se battent depuis plus d'un an, leur dire, c'est bon, vous allez redémarrer, et puis au final, quand il vient, même pas il nous dit bonjour. C'est le style comme ça, le mec. La dernière fois qu'il est venu, il a dit bonjour à personne. C'est mon usine et je fais ce que je veux. Non. Ce monsieur-là, il ne faudrait pas trop que je le recroise. Il faut que la loi change. Toute l'industrie de France se barre, on va dire les choses comme elles sont. Ça part dans tous les pays, et puis nous, on va rester à faire du tourisme, mais je pense qu'il n'y a personne qui va manger en faisant que du tourisme.
En titre de l'actualité ce matin, le site continental de Clairoy dans l'Oise, c'est fini. Le repreneur éventuel de Dubaï s'est finalement désisté. L'usine fermera donc à la fin de l'année. 1120 salariés désormais certains de perdre leur emploi.
Ces salariés d'ArcelorMittal sont abattus. Ils attendaient du gouvernement qu'il nationalise temporairement le site de Florange. Mais ce n'est pas le scénario qui a été retenu.
Ce qu'on voulait surtout, c'est de sortir des griffes de M. Mittal. Ça fait 6 ans et demi qu'il est notre patron et ça fait 6 ans et demi qu'il n'utilise que le chantage, les menaces et la peur.
La colère est grande contre Arkema, l'ancien propriétaire, mais aussi contre Gaëry Klesch, l'actionnaire repreneur. La situation est d'autant plus incompréhensible pour les salariés que lors de la cession en 2012, Arkema avait versé à Klesch 100 millions d'euros de trésorerie.
Alors les salariés de Véninov sont très inquiets. Ils craignent que Windegger, qui a repris l'usine en mai dernier, et qui n'a toujours pas relancé la production, ni réembauché les salariés, n'ait en fait repris l'usine que pour piller l'outil de travail, récupérer les marques, et tout délocaliser en Hollande, où il y a des usines beaucoup plus modernes. Alors là, on se trouve rue Monsieur le Prince, près du Luxembourg, à Paris, et on va aller se renseigner auprès de Féodor Rilov, qui est avocat, et toujours aux côtés des salariés en lutte.
Féodor Rilov, avocat. Toutes les reprises, et c'est heureux, ne sont pas des reprises frauduleuses. Mais elles existent, et dans les dossiers dont moi j'ai la charge, je constate fréquemment que les reprises s'achèvent par des faillites. Et je crois que à chaque fois qu'il y a une reprise d'une activité industrielle qui est menacée, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que celui qui reprend a des raisons de reprendre. Et les autorités publiques, peut-être au premier chef, le gouvernement surtout, devraient s'assurer que cette activité, lorsqu'elle est transférée à un repreneur, ne l'est pas pour de mauvaises raisons. Et bon, ces dispositifs de contrôle n'existent pas aujourd'hui. Alors, si dans les semaines à venir, dans les mois à venir, une législation visant à multiplier les reprises d'activités industrielles menacées est adoptée et votée, on ferait bien de l'assortir d'un vrai dispositif de contrôle dans la durée, et de sanctions permettant de revenir en arrière, si jamais on s'aperçoit, au bout du compte, que le repreneur n'avait pas du tout l'objectif de poursuivre l'activité, mais plutôt de préparer une faillite, et à l'occasion de laquelle, lui, il s'en va, avec un joli petit pactole. Voilà. Vous voyez, ça, ce sont, je crois, des impératifs qui ne devraient pas échapper au gouvernement, ni à Arnaud Montebourg.
Mais donc, pour l'instant, il n'existe pas de dispositif de contrôle pour s'assurer qu'un repreneur a bien l'intention de relancer la production et pas de faire une faillite ou de délocaliser.
Il n'y a aucun dispositif de contrôle. Les seuls à opérer un contrôle, ce sont les salariés. Mais enfin, c'est quand même peut-être d'abord aux autorités publiques de créer un mécanisme de vérification permettant d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'opération ne se fasse ou peu de temps après que l'opération ait eu lieu, afin de prévenir les catastrophes.
Le 7-9 de France Inter.
France Inter, 20 mars 2013.
Patrick Cohen.
Le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg est notre invité ce matin sur Inter. Très vite.
Pour quels résultats sur d'autres dossiers emblématiques, Petroplus, Rio Tinto, vous avez tendance à annoncer des repreneurs qui finalement disparaissent?
Écoutez, d'abord, j'annonce pas des repreneurs, c'est les repreneurs qui se manifestent. Premièrement, j'annonce pas
de
repreneurs.
Vous avez beaucoup soutenu les
Mais je soutiens monsieur Lefebvre comme je vous soutiendrai vous si vous me dites, écoutez, j'ai de l'argent, j'ai du pétrole, je reprends une raffinerie qui perd 50 millions d'euros par an.
Quand vous en parlez, vous validez en quelque sorte ou en tout cas.
Mais je valide pour une raison simple, c'est que c'est le tribunal de commerce qui décide, ce n'est pas le gouvernement, et que nous poussons en effet des dossiers. Et c'est mon boulot de faire ça.
Dès le lendemain, quasiment
insuffisant. D'abord, c'est pas dès le lendemain.
Ah si, non,
c'est pas. Mais ce n'est pas dès le lendemain. Vous exagérez, monsieur Lefebvre. C'est trois mois après, et je veux vous dire que notre travail, c'est de nous battre, et y compris de façon, très forte. Si nous avons des repreneurs, eh bien nous les encourageons. Je ne vais pas leur dire, on verra bien, allez vous présenter au troisième guichet au fond du couloir. Je ne parle pas comme ça des repreneurs. Moi, je les encourage. Et vous ne pouvez pas me dire, monsieur Lefebvre, que le ministère de redressement productif n'accueille pas des repreneurs. Voilà, moi je les accueille. Je suis le ministre de l'hospitalité industrielle. Voilà.
C'est comment vous, votre prénom ?
Monsieur Assadi Ayadi. Je suis en formation et dès que j'ai fini ma formation, j'attaque l'emploi.
Vous êtes en formation de quoi ?
Informatique.
Est-ce que ici, chez Fénina, vous faisiez quoi ?
J'étais conducteur de machine. Conducteur de machine. Chez Villeneuve, ça fait 12 ans, et là c'est fini, maintenant on commence à chercher ailleurs, parce qu'on est en fin de droit, et c'est bientôt la fin, quoi. On peut plus attendre. Au niveau humain, c'est une catastrophe, ces mecs. Au niveau humain, c'est une catastrophe. Il a abandonné un site à risque pendant un an. Ces gens-là, personne ne leur dit rien. On se demande même s'il y a un gouvernement, un jour ou l'autre, on va prendre une décision en disant « stop ». À ces dégâts, quoi. C'est vrai que c'est pas tous les patrons voyous, mais ces gens-là, ils donnent les mauvais exemples. J'habite dans un quartier comme Vinicius ou Minguette. Tous les jours, on me rabâche comme quoi il faut montrer le bon exemple. Ben, au niveau patronat, il faut qu'eux aussi montrent le bon exemple, parce que là, lui, il montre qu'il est mauvais.
Vous habitez au Minguette ?
Ouais.
On en parlait dans les années 80, pas mal, c'est là où sont nés les rodéos, tout ça.
Ouais. Bah là, et c'est fini. Bah, on a plus de voyous de Jarouane Deguerre que de voyous aux Minguettes. Là, c'est devenu les voyous, ils sont devenus dans les bons quartiers et dans les quartiers épais, parce que là, ça, c'est des voyous à 20 millions d'euros. Aux Minguettes, il y a des petits voyous par rapport aux gros voyous là, qu'on a. Là. Parce que là, ça rigole pas. Là. J'ai mes 20 familles ou 30 familles au chômage, j'en ai rien à foutre. Et je prends mes 20 millions, 30 millions dans l'année qui suit, et voilà. C'est ça, en fait. C'est ça la vérité maintenant. Ça a changé de rôle. Il n'y a plus de voyous aux Minguettes. Vous savez, hein, la différence entre les grands voyous Windegger et un mec de Minguettes, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes avocats. Et ils n'ont pas le même compte bancaire, c'est tout.
Au bout du rouleau, mais ils tiennent bon. Un reportage de Charlotte Perry à Vénissieux avec les salariés de l'usine Véninov. Merci à Céline, Manu, Stéphane, Ayadi et Georges. Merci à Michel Picard, maire de Vénissieux, et à Fiodor Ilov, l'avocat. Fiodor Ilov. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter aussi cette émission sur le site labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Michel Bézikian, Franck Adirer et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovic et Marion Dupas. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis. au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Futuroscope. Imaginez des images géantes sur l'écran d'eau, des fontaines spectaculaires et des flammes multicolores, des lasers et des effets spéciaux uniques au monde.
Le Futuroscope vous présente sa nouvelle féerie nocturne, contée par Nolwenn Leroy. Vous n'en croirez pas vos yeux.
Un spectacle de scherzo sur une musique de Bruno Coulet. Représentation tous les soirs.
Futuroscope. Toute l'année, le séjour 2 jours 1 nuit est à partir de 41 € par jour et par personne, spectacle nocturne inclus. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
France 2.
Il nous faut un négociateur, quelqu'un habitué à traiter avec des preneurs d'otages.
Je connais un.
Moi aussi, le meilleur sur la place.
Qui ?
Moi.
Manipulation avec Lambert Wilson. Demain soir, pour sauver la tête de l'État, il va risquer la sienne. France 2.
France 2. À l'image de la vie, de la vie.
France Inter, partenaire de l'exposition Alberto Giacometti, Espace, Tête, Figure, jusqu'au 9 juin au musée de Grenoble. Une exposition didactique consacrée à l'un des sculpteurs les plus marquants du XXe siècle. Plus de 70 photographies, sculptures, peintures et œuvres graphiques pour comprendre la démarche de l'artiste tout en restituant à chaque œuvre sa part de mystère. Retrouvez l'exposition Alberto Giacometti, Espace, Tête, Figure dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2013, du 23 au 28 avril.
6 jours de musique live, plus de 200 artistes.
Avec C2C, M, Benjamin Biolay,
Public Enemy,
Kenny Arcana,
The Vaccines,
A995,
Jamie Cullum,
Alpha Blondie,
Mika,
Woodkid
et beaucoup d'autres.
Retrouvez Downtown, jeudi 25 avril à 18h,
en direct et en public du Printemps de Bourges.
16h sur France Inter, on se retrouve demain, 15h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Après le canard enchaîné, c'est la chaîne d'info en continu BFM TV qui l'affirme cet après-midi. Jérôme Cahuzac serait actuellement entendu par les juges du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. L'ancien ministre du budget aurait lui-même pris rendez-vous avec les juges Leloir et Van Ruymbeek pour passer aux aveux. Après l'avoir nié, Jérôme Cahuzac posséderait donc bien finalement des comptes en Suisse et à Singapour. Les autorités de protection des données de 6 pays européens ont décidé d'attaquer Google, parmi elles la CNIL française, qui reproche aux géants de l'Internet de ne pas avoir répondu à leur injonction de modifier les règles de confidentialité. Ban Ki-moon appelle aujourd'hui les deux Corées au dialogue et à la négociation. Le secrétaire général des Nations Unies estime que la crise nord-coréenne est allée trop loin. Pyongyang a annoncé ce matin en effet vouloir redémarrer un réacteur nucléaire à l'arrêt depuis 2007. Les menaces nucléaires ne sont pas un jeu, a mis en garde Ban Ki-moon, qui redoute aujourd'hui une escalade. Le lieu était surnommé Shitland. Il fut pendant des années l'un des supermarchés du cannabis en banlieue parisienne. Le premier procès du réseau qui alimentait la cité des Boulereaux à Champigny-sur-Marne s'est donc ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Créteil. 21 personnes sont sur le banc des prévenus. Elles seront jugées jusqu'à la fin de la semaine. Un réseau de proxénétisme roumain a été démantelé ce matin dans le Val d'Oise. 14 personnes ont été interpellées à Clichy-sous-Bois et au Pavillon-sous-Bois. L'intervention de la police a mobilisé 80 fonctionnaires, dont des membres du RAID. Les prostituées âgées de 19 et 20 ans étaient déposées tous les matins sur le bord de la route et récupérées le soir par des hommes de main des proxénètes présumés. 12 personnes ont été mises en examen et écrouées à Lille dans une vaste affaire d'escroquerie. Cette fois, des courriers étaient volés dans des sacoches de facteurs, notamment à Paris, sur le parvis de la Défense, là où siègent de nombreuses entreprises et compagnies d'assurance. Sur les chèques récupérés, les malfaiteurs rajoutaient simplement des lettres au nom d'entreprises fictives. L'escroquerie est évaluée à 18 millions d'euros. Un policier d'une trentaine d'années s'est suicidé ce matin dans un commissariat à Denain, dans le Nord, suicidé avec son arme de service. Il n'a pas laissé de mots pour expliquer son geste. Il a pris une dernière fois la parole aujourd'hui et sans surprise, lors de la dernière journée d'audience du procès pour dopage Puerto, le docteur Fuentes a acclamé son innocence aujourd'hui à Madrid. Le principal accusé dans cette affaire qui porte sur des transfusions sanguines assure qu'en 35 ans de carrière, il n'a jamais porté atteinte à la santé de l'un de ses patients. Le jugement sera rendu d'ici 4 à 6 semaines. Enfin, le romancier et poète Camille Bourniquel, directeur de la revue Esprit pendant près de 20 ans, est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Il avait notamment obtenu le prix Médicis en 1970 pour Célinon ou la Chambre impériale et en 1977 celui de l'Académie française pour Tempo. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Eiffel.
Fous le monstre sur tes chemins de fortune, hurleur d'acier, roi feignant.
Mesparo.
We want to be, we want to hide in every second of the life.
Et Pony Aux. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Ledéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On le connaît pour quelques opéras, il s'appelle Louis-Ferdinand Hérold, né en 1791, à l'année précise de la mort de Mozart, eh bien, il poussait ses premiers cris de bébé, et lors de cette année, on n'a pas évidemment de documents, on sait simplement que durant sa courte vie, 42 ans seulement, il est mort de phtisie en 1838, Hérold a connu quelques succès d'opéra, surtout Zampa par exemple, Marie, et le Pré au Clair, mais on ignore parfois, et grâce à certains éditeurs, il s'agit de Mirare, là, aujourd'hui. On redécouvre d'autres œuvres de Louis-Ferdinand Hérold. Voici, par exemple, un extrait de son troisième concerto pour piano et orchestre, Rondo.
Thank you.
Le rondo du troisième concerto pour piano et orchestre de Louis-Ferdinand Hérold, compositeur français. 42 ans de vie seulement, je l'ai dit, la phtisie, la tuberculose, on dirait aujourd'hui. Bon, il y a eu un record très contesté entre pas mal de compositeurs à l'époque romantique, même bien avant aussi. La médecine, je le répète, n'était pas très très précise en ce temps-là. Et celui qui va très bien au piano, c'est Jean-Frédéric Neuburger, avec l'orchestre Symphonia Varsovia, dirigé par Hervé Niquet. Quant à Carl Maria von Weber, lui aussi, on connaît pas mal de son œuvre d'opéra. On connaît le Freischütz, autant dire le Franc-Tireur, Orient, et d'autres, et moins les symphonies. Pourtant, c'est une injustice, vite réparée d'ailleurs, il y a des symphonies. Voici un extrait de la deuxième, avec un final curieux, presto, marqué scherzo. En principe, le scherzo, c'est un morceau intercalaire, un petit divertissement. Puis ce final est très très court, il dure à peine 2 minutes et demie, puis il s'interrompt de manière... on va dire presque par hasard, enfin d'une manière qui étonne beaucoup, qui est vraiment comme ça, comme une disparition fortuite. Mais peut-être qu'il avait autre chose à faire à ce moment-là, je ne sais pas.